Vision Bleue avec Cédric Frémy sur France Bleu Provence.
Et Gérard Philippi, ça y est, il est là, pile à l'heure. Bonjour Gérard.
Ouais, toujours, hein, comme d'habitude, bonjour.
Bienvenue, ça va Gérard, depuis 4 semaines déjà. C'est fou, hein.
Écoute, ça va bien.
Voilà, il remet son micro, ouais, il s'installe. C'est vraiment du live, hein. Gérard vient tout juste d'arriver pour le début de l'émission. Alors, on rappelle qui est Gérard Philippi. Gérard Philippi, entomologiste, passionné par les insectes. Vous êtes aussi à la tête d'Ecotonia. C'est quoi Ecotonia?
Ecotonia, c'est un cabinet d'études naturalistes.
Voilà,
on fait des études d'impact ou des études faune-flore préalables à tous les projets d'aménagement. Voilà.
Ce qui veut dire que Gérard est vraiment spécialiste des insectes, de la faune, de la flore. Donc si vous avez des questions sur le comportement des insectes ou des oiseaux, etc., bah appelez-nous tout de suite pour solliciter Gérard Philippi. La fois dernière, au début du mois de juillet, vous aviez été très nombreux à nous appeler, à tel point qu'on n'avait pas eu le temps de prendre tous les appels. Donc là, bah, allez, appelez-nous tout de suite, 04 42 38 08 08. Allez, on commence avec René. Bah, René, c'est super que vous soyez là parce que vous étiez en attente la fois dernière. Je vous avais dit qu'on vous prendrait en début d'émission lors du retour de Gérard Philippi. Donc vous voici à l'antenne. René à Saint-Mithre-les-Remparts, bonjour.
Bonjour monsieur.
Appelez-moi Cédric, René. Et je vous propose de poser votre question à Gérard Philippi. Il vous écoute.
Bon, ben, ma question était que d'abord, que j'aimais beaucoup les libellules. Ça, c'est pas une question.
Ah oui, super.
C'était un constat. Et c'est le moment. Et puis alors, ma question aurait pu être quel est son prédateur et qu'est-ce qu'elle court après quoi? Après qui pour se nourrir pendant ces 2 mois de vie.
Quel est son prédateur et quelles sont ses proies?
Alors
vous avez tout compris, monsieur Cédric.
Oui. Mais écoutez, très bien, les odonates, donc les libellules, sont déjà des prédateurs dans la chaîne alimentaire des insectes. Hein. Ils sont au sommet de la chaîne alimentaire sur les milieux humides. C'est-à-dire que les libellules vont se nourrir de toutes les petits moucherons, mouches, insectes en tout genre, petits insectes en général, au-dessus des milieux humides. Et elles ne se contentent pas de rester, bien sûr, sur les étangs, sur les rivières. Beaucoup de libellules vont chasser, par exemple, dans la garrigue. C'est là où elles trouvent un maximum d'insectes. Hein. Alors sinon, les libellules ont aussi des prédateurs qui sont souvent les oiseaux. Voilà.
Tout simplement. Vous voulez savoir autre chose sur les libellules, René?
Non, c'était que je suis pris en tête de feu, c'est que j'adore les oiseaux.
C'est la nature, quoi. C'est ça, Gérard. Hein.
Oui, alors après, elles ont des moyens de défense. Hein. Vous savez que les libellules ne sont pas faciles à attraper, elles zigzaguent dans tous les sens.
Oui.
Et vous en avez de très très petites, voire même certaines avec des tailles assez impressionnantes, comme les échenas qu'on appelle, ce sont les grosses libellules qui vivent au-dessus, qui sont bleutées et vertes, là, qui vivent au-dessus des petits étangs ou des mares.
Alors pourquoi il y en a certaines qui sont rouges ou qui sont bleues ou qui sont vertes? Ça dépend de quoi, de l'espèce.
Oui, alors chaque espèce en fin de compte a ses couleurs et son mimétisme, son homochromie en fin de compte pour parfois et bien se dissimuler sur les branches. Ce sont surtout le cas des femelles qui sont beaucoup plus ternes, plus claires. Ouais. Parce que les couleurs un peu chatoyantes que vous voyez en général, sont souvent des mâles. La couleur rouge, par exemple, est une couleur qui est spécifique à une espèce, notamment comme le Crocotémis, qui vient d'Afrique. C'est une libellule qui est toute rouge avec un abdomen un petit peu plat.
Ouais.
Et le mâle arbore cette couleur justement pour attirer la femelle. Ah. Et c'est une des caractéristiques de coloration chez les libellules, c'est qu'elles ont toute une palette de couleurs assez intéressante.
Et parfois on les voit avec une forme de cœur. Qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là?
Là, c'est l'accouplement.
Ah voilà, la reproduction. Voilà,
c'est l'accouplement. Le mâle enserre la femelle et puis peut copuler, comme on dit, pour la reproduction.
Ça vit combien de temps une libellule?
Alors ça vit pas très longtemps. La vie larvaire est assez longue, hein, puisque les larves aussi sont sous l'eau, sont des prédateurs. Ces larves sont capables de, par exemple, de manger des petits poissons tout petits.
Ouais.
Et puis manger aussi toutes sortes de larves d'insectes. Donc la vie larvaire chez les libellules peut durer plusieurs mois, alors que la vie aérienne chez les adultes souvent peut durer 3 semaines à mon.
Ah, c'est très rapide, hein.
Voilà. Ouais.
Voilà, René, plein de réponses.
Je vous remercie beaucoup, Chester et Cédric, que vous les aimez vous aussi.
Oui, je trouve ça magnifique et je me souviens, alors pour le coup, d'une libellule rouge en Australie. C'est normal que j'en ai vu là-bas, Gérard.
Oui, tout à fait, oui. Partout à travers le monde.
Ah, ok, c'est bon. Voilà. Merci beaucoup, René. À très bientôt à Saint-Mithre-les-Remparts.
Au revoir.
Vos questions à Gérard Philippi, notre entomologiste, au 04 42 38 08 08. Prenez la suite de René. Il y a Annie qui nous attend de Gréasque pour un gros ver blanc dans ses pots de fleurs. Elle va poser sa question à Gérard Philippi. Et puis vous aussi prenez la relève. 04 42 38 08 08. Tout sur les insectes. Voici 3 cafés gourmands en nouveauté sur France Bleu Provence. Ainsi va la vie.
Dès demain, tu prendras le bateau vers une île, en portant avec toi nos photos. Imbécile, chacun vivra ses difficiles, ce court moment un peu fragile de ton départ. De cet adieu un peu amer, une défaite parmi les fêtes. Ainsi va la vie. À décevoir, à expliquer. Ton absence était assez longue et les richesses de ta mémoire sont si profondes que le vent et l'ombre poussent les ivresses et tes années. Fuis la jeunesse et des tracés non réfléchis, non aboutis. Et tu nous dis que c'est ainsi. Ainsi que va ta vie. Son cœur saigne et nos mains tremblent, mais la lueur de ton retour nous donne espoir et nos corps lourds se lèvent enfin pour te rappeler
qu'on est des amis.
Café gourmand sur France Bleu Provence, de retour dans la région le 19 août au Théâtre de la Mer de Sainte-Maxime.
La vie en bleu sur France Bleu Provence.
Avec Gérard Philippi, entomologiste à la tête d'Ecotonia, cabinet d'expertise naturaliste à Aiguille. Vous avez sur notre site francebleu.fr/Provence le lien d'Ecotonia si vous voulez en savoir plus sur l'activité de Gérard Philippi. francebleu.fr/Provence. Donc Gérard, spécialiste des insectes, mais les auditeurs peuvent aussi vous poser des questions sur la faune, la flore, les oui, oiseaux, les reptiles.
Ben oui, c'est tous les ordres taxonomiques, comme on dit. C'est-à-dire que mon cabinet d'études, justement, est tourné vers tout, l'étude de toutes les espèces, hein, qu'elles soient animales ou que ce soit des plantes. Donc, on travaille sur les reptiles, les amphibiens, les oiseaux, les insectes, les chauves-souris aussi, les mammifères.
Voilà, donc comme on a répondu tout à l'heure à René avec les libellules, si vous êtes curieux de savoir, d'en savoir plus sur tel ou tel animal, insecte ou espèce, appelez-nous. 04 42 38 08 08. Bonjour Annie à Gréasque.
Oui, bonjour.
Nous vous écoutons avec Gérard.
Eh bien voilà, j'ai acheté du terreau en sachet pour agrémenter mes potées que j'ai sur ma terrasse. En fait, quand j'ai vu le terreau, il y avait des petites billes à l'intérieur. Moi, je pensais que c'était de l'amendement. Et quelques temps après, mes potées dépérissent complètement. Donc, j'ai dépoté mes plantes, style Sephora Augustive, Bois Joli, la Gestroemia. Et en fait, je me suis retrouvée avec des grosses larves blanches à l'intérieur. des gros vers blancs de la grosseur d'un petit doigt, vous voyez, la largeur, avec voilà, et donc tout meurt. Donc je voulais savoir si vous pouvez me donner une idée de ce que ça peut être.
Est-ce que vous avez redépoté une deuxième fois pour voir si vos fameuses billes étaient là? Parce que les œufs.
Non, ils ne sont plus, justement.
D'accord.
Alors, il y a différentes tailles, parce que je pense que ça doit être des œufs. Ils doivent éclore à différents moments. Donc, il y a des grands, il y a des plus petits, il y a des. Voilà. Donc là, j'ai tout amusé avec un tamis, mais bon.
Oui, alors ces œufs que vous avez vus au départ, qui sont probablement des œufs, étaient de couleur un peu blanche claire,
oui,
c'est ça?
Oui, d'accord, c'est ça, oui. Ouais,
okay. Donc c'est certainement des œufs de peut-être de hanneton, parce que vous savez, bon, il y a tellement d'espèces qui pondent comme ça dans le terreau, surtout si le terreau a été préparé de façon la plus naturelle possible aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on n'y adjoint pas d'insecticides ou de produits un peu chimiques, donc ce qui fait que forcément les terreaux attirent des espèces qui sont saproxyliques ou xylophages, qui se nourrissent du bois en décomposition, et parfois même, dans votre cas, je pense, c'est l'attaque des racines de vos plantes, qui sont très très agréables pour les larves qui viennent aspirer un peu la sève, voilà, en se nourrissant de ce qu'il y a dedans. Alors après, l'espèce, ça va être compliqué, mais il y a beaucoup de, je pense, plutôt un genre de hanneton. Les larves font quelle taille à peu près?
Oh, ben, 2 centimètres.
Oui, ça correspond. Vous savez, vous avez les grosses larves blanches d'Oryctes rhinocéros, le scarabée rhinocéros, qui fait quand même 4-5 centimètres.
Donc c'est plus petit. J'avais un peu regardé sur Internet, il y avait marqué un peu cétoines, vous voyez.
Oui, ça peut être des cétoines. Les cétoines aussi, ce sont des coléoptères.
Je me posais quelle solution pour mes potées?
Ben, les solutions, je crois qu'il faut, il faudrait, il faut. De toute façon, les larves, elles peuvent pas se reproduire entre elles. Donc, quand vous tamisez, vous les enlevez, et puis vous allez les porter un peu plus loin dans la nature. Parce que s'il s'agit de Cétonia aurata, qui est une cétoine verte magnifique, vous savez, qui est floricole, qui se nourrit du pollen des fleurs, sont des espèces qui participent à la pollinisation et qui sont intéressantes pour les écosystèmes et la biodiversité.
D'accord.
Donc, il faut pas les détruire. Vous allez les replacer un peu plus loin dans une forêt, par exemple. Ben, elles seront très bien. Elles trouveront de quoi survivre.
Bon, mais écoutez,
et vous n'en aurez pas d'autres puisqu'elles ne se reproduisent pas à l'intérieur. Hein.
Ah, d'accord.
Voilà.
Bon, parce qu'il y en a énormément, quoi. Je veux dire, je me suis retrouvée des potées remplies, quoi. Donc,
ah, bah, c'est possible, vous savez. Le coléoptère peut pondre jusqu'à 150 œufs, à peu près.
Ah,
hein.
Ouais.
Voilà.
Ouais,
en général, c'est une moyenne. Hein. Vous avez le papillon des palmiers qui en fait entre 150 et 300. Donc, imaginez 300 larves dans un stipe de palmier. Bah, voilà.
Oui.
Le palmier s'effondre.
Écoutez, je vous remercie.
Merci, Annie.
Merci à vous.
Une bonne journée.
À vous aussi, à bientôt, à Gréasque.
Au revoir.
J'ai une question qui me vient en tête pour vous, Gérard, parce que je voyais sur Internet, j'ai tapé cétoine, et puis oui, donc c'est cette couleur verte, un peu moire, voilà, un peu brillante. Mmh. Et je repense, désolé, je vais dire un gros mot, aux mouches à merde qui sont aussi toutes vertes. Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi elles sont tout le temps attirées par notre viande quand on mange un barbecue en terrasse l'été? Voilà. Pouvez-vous m'en dire plus sur les mouches à merde?
Parce que, ben justement, les mouches, c'est leur particularité. Hein, elles décomposent, en fin de compte, les matières vivantes comme la viande, etc. Donc c'est là-dedans qu'elles vont pondre. Hein. C'est comme ça que les larves se développent. Ensuite, les couleurs chatoyantes comme ça, on parle de couleurs optiques, parce que sur la chitine, c'est-à-dire la carapace des insectes en général, voire des mouches, vous avez en fin de compte des couleurs métalliques qui sont le résultat de la réfraction de la lumière à travers les écailles. Le prisme des écailles, c'est comme une espèce de petite cellule, si vous voulez, avec une diffraction de la lumière quand elle passe à travers. Et ça vous rend ces couleurs optiques. Ça peut être aussi des papillons bleus métalliques, comme ces fameuses cétoines, ou comme les mouches aussi. Parfois sont rouges aussi, parce qu'elles ont une, comment dire, elles tirent leur nourriture de substances très en décomposition qui développent énormément de gaz. Je pense qu'il y a une relation tout à fait normale entre toutes la récupération de ces acides aminés parfois qui changent la couleur des insectes.
Et donc le nom scientifique de la mouche à merde, c'est...
Là, je ne l'ai pas en tête. Mais bon,
ça a un nom.
Il y a énormément de mouches, il y en a plusieurs.
Ah ouais, c'est
ouais,
vrai.
Oui, bien sûr.
Bon, on étudiera ça plus précisément. Vos questions à Gérard Philippi, notre spécialiste des insectes, de la faune et de la flore. 04 42 38 08 08. Armande, Aix-en-Provence, bonjour.
Oui, bonjour. Bonjour messieurs et merci pour vos émissions.
Avec plaisir, on est là pour vous.
Formidable. Moi, je voulais simplement demander à monsieur Philippi vers quel livre, vers quelle littérature ou petite application internet éventuellement pour pouvoir faire des identifications quand on rencontre des insectes.
Ah, pour les insectes. Alors c'est compliqué
voilà,
pour les insectes.
Des insectes et autres, quoi. Parce que j'ai eu affaire à un gros scarabée que ouais. j'ai déplacé, bien sûr, sans le tuer, ni rien, parce que je n'aime pas tuer ni les insectes, ni les animaux. Mais je n'ai pas su, si vous voulez, quelle était sa fonction et comment il pouvait s'appeler, ce gros scarabée, il y a quelques jours, quoi.
D'accord. Est-ce qu'il avait une corne sur la tête ?
Non, pas du tout, parce que je connais les rhinocéros.
Quand vous dites gros, c'est quelle taille, quelle couleur à peu près?
Bah, il faisait bien 3-4 cm oui. et il était tout noir.
Tout noir, d'accord.
Oui.
Alors ça peut être la femelle, vous savez, du scarabée du rhinocéros qui n'a pas de corne.
Ah, voilà. Mais c'était un insecte qui était longiligne.
Ah, longiligne, non,
elle
n'était
pas du tout trapue. Parce que le rhinocéros est quand même un insecte, un scarabée qui est trapu.
Il est trapu, assez bombé, d'ailleurs, on le reconnaît bien.
Voilà.
Alors, les insectes, c'est un peu compliqué. Vous savez, aujourd'hui, il existe des tas d'applications sur Internet qui vous permettent, par exemple, de reconnaître une plante approximativement. Hein, parce que souvent, quand il y a des plantes assez proches, c'est quand même compliqué. Il faut quand même avoir un regard d'expert. Mais ce sont des outils à la connaissance qui sont très intéressants. Par contre, pour les insectes, le problème, c'est que... Alors, c'est des applications qui vont certainement arriver dans le futur proche. Parce que je sais qu'il y a des gens qui travaillent là-dessus. Par contre, vous aurez toujours des difficultés, par exemple, à distinguer la différence entre deux petits papillons bleus, vous savez, les lycènes, par exemple, qui sont très différents. Il faut regarder parfois soit la couleur des poils ou la couleur des bandes. C'est vraiment, il faut avoir un œil très averti puis une loupe pour faire ça.
Voilà, mais moi c'est vrai que je vais pas trop vers Internet. Hein. J'avoue que je n'y vais que vraiment quand je peux pas faire autrement. Mais je préfère aller vers la littérature.
Oui, à ce moment-là, vous avez des tas d'outils, vous avez tous les livres sur les sciences naturelles, notamment je pense au Delachaux Niesley. Vous savez sur les insectes, vous avez de très bons livres en librairie qui sont très bien, hein, que nous utilisons parfois. Vous avez les insectes, vous avez les papillons, les papillons d'Europe. Vous avez quand même des bouquins intéressants qui sont à la portée de tout le monde et qui donnent à la fois le nom vernaculaire et le nom scientifique. Et facile pour reconnaître certaines espèces, pas toutes.
Très bien.
Bon, renseignez-vous, vous êtes à Aix. Ouais, Boulard ou Cours Mirabeau, je pense qu'ils doivent avoir.
Sur Cours Mirabeau, ils ont très bons livres.
Je vais avoir de quoi, alors. Ouais.
Merci, Armande.
Merci infiniment.
Et du coup, ce scarabée,
ça peut être des tas de choses. Ouais. Hein. Donc, c'est quand même assez compliqué. Après, ils peuvent toujours envoyer une photo à France Bleu. Je me ferai plaisir de leur déterminer.
À bientôt, Armande, avec son Provence. Christiane et ensuite Martine. Vos questions pour Gérard Philippi, notre spécialiste des insectes, de la faune et de la flore. 04 42 38 08 08.
France Bleu. France Bleu Provence, partenaire du CEPAC Silo, la salle de spectacle marseillaise. À l'affiche pour la nouvelle saison, le phénomène prodige du violon Ara Malikian le 18 octobre. En novembre, le 14, Patrick Sébastien dans Le Secret des Cigales, une pièce tendre et émouvante. Le 26, le duo Michel Larocque-François Berléand dans Encore un instant.
T'as vu des gueules dans ta vie, tu dis t'as du vécu, mais mon te perd son âme tant ils sont aigus.
Et Oxmo Puccino le 27 novembre. Tout le programme, www.cepaxilo-marseille.fr. Écoutez France Bleu Provence et gagnez vos invitations.
Pour retrouver les senteurs de la garrigue provençale dans votre cuisine, choisissez du thym de Provence IGP. Son goût puissant régalera vos papilles. L'indication géographique protégée thym de Provence, c'est la garantie d'un thym cultivé en Provence, selon un savoir-faire ancestral qui bénéficie d'une traçabilité complète du champ à votre assiette. Frais ou sec, il est toujours très aromatique. En plus, il fait vivre le territoire provençal. Alors n'hésitez plus. Exigez le thym de Provence IGP dans votre magasin habituel, reconnaissable au logo bleu et jaune de IGP.
La vie en bleu sur France Bleu Provence.
Notre spécialiste des insectes, de la faune et de la flore, Gérard Philippi, répond à vos questions au 04 42 38 08 08. Christiane à Marseille, dans le centre-ville. Bonjour Christiane.
Bonjour. Alors, ma question
concerne les papillons.
Ça s'est passé octobre ou novembre 18. Donc c'était le soir, c'était assez tard, j'étais allongée sur mon lit, les jambes repliées, je lisais, et rentrée dans ma chambre, parce que je laisse toujours la fenêtre ouverte, une flopée de papillons de jour et de nuit, et parmi ceux-là, il y en avait un qui était jaune pâle, cerclé de noir, je n'en ai jamais vu. Et il est rentré, je crois que c'était un petit oiseau ou une chauve-souris, donc quelque chose d'assez gros qui a volé, je l'ai pris en photo. Et puis il est venu se poser sur mon genou, donc et moi j'ai eu peur, je me suis cachée sous le drap. Donc finalement je suis sortie de dessous et j'ai les cherché, j'ai attendu un certain temps parce qu'il y en a beaucoup qui sont partis, il y en a deux ou trois qui sont restés. Et je l'ai trouvé, je l'ai pris en photo. Donc la photo n'a pas bien donné avec mon portable. Alors ça fait entre 10 et 15 centimètres. Il est tout noir. Il n'a pas de... Comment ça s'appelle ça? Pas de dard. Et j'ai pris une serviette, je l'ai doublée parce que j'avais un peu peur. Et je ne l'ai pas serré. Je l'ai pris avec délicatesse. Et au moment où je l'ai pris, il a crié. Ça fait comme un son de sonar. Et quand je l'ai retourné pour voir, il a le corps à rayures comme une abeille. Donc je l'ai mis dehors, puisqu'en dessous il y a les jardins, les arbres, etc. J'ai jamais vu ça, et je voudrais savoir qu'est-ce que c'est comme insecte.
Waouh. Alors deux choses. Vous m'avez dit que c'était à la tombée du soir, c'est ça?
C'était assez tard, c'est vers 22h.
Donc voilà. il s'agit, vous aviez de la lumière. Oui.
Comment?
Ah oui, c'était en octobre, novembre, 22h, donc non, il devait faire nuit déjà alors.
Oui, il devait faire nuit. Mais enfin bon, moi je pense, alors vous me parlez d'un papillon, hein, donc il y a beaucoup de papillons de nuit.
Non, j'ai eu une flopée de papillons de jour et de nuit qui sont entrés, donc c'est la première fois. Parmi ces papillons, il y en avait un qui était jaune pâle, d'un très joli jaune pâle, cerclé de noir. Et en même temps, il rentrait, donc je croyais que c'était un petit oiseau ou une chauve-souris. Et j'ai pris en photo, et après, donc il y en a qui sont partis, il m'est resté deux ou trois, ça ne m'a pas gêné. Mais j'ai cherché le gros, et je l'ai trouvé, je l'ai pris en photo. Donc il est tout noir, il fait 10 à 15 centimètres. Quand je l'ai attrapé, donc avec délicatesse, avec une serviette, il a crié, ça fait comme un son.
Christian, vous l'avez déjà dit. Alors, réponse de Gérard.
Alors, ça va être une réponse un petit peu longue, mais je pense savoir, vous avez eu beaucoup de chance, en fin de compte, d'être tombé sur ce qu'on appelle le sphinx à tête de mort, qui est Acherontia atropos. C'est un sphinx qui est un sphingite, c'est un papillon nuit qui a une trompe trop courte pour se nourrir du pollen des fleurs. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il va se nourrir dans les ruches d'abeilles en général. Il est tout noir dessus. Ouais. Et quand on le retourne effectivement sous le ventre, il a cette couleur un petit peu d'abdomen d'abeille, hein, puisqu'il a les ailes inférieures qui sont jaunes. Et figurez-vous que dans l'Antiquité déjà, ce sphingide émet un vrombissement, c'est-à-dire un espèce de cri qui est dû à l'air qui est pulsé à travers sa trompe. Et qui faisait que les gens, à l'époque, le prenaient pour un insecte, un présage de mort, en fin de compte. Il est cloué sur les portes. On a retrouvé ça dans les vieux écrits. En fin de compte, c'est un insecte, un papillon migrateur qui vient d'Afrique et qui se reproduit sur les carottes sauvages, les pommes de terre, voilà. Et c'est un papillon qui peut traverser de grandes distances et aller mourir, même jusque dans le nord de la France, traverser la Manche et aller jusqu'en Écosse. Ce papillon est absolument inoffensif, puisqu'il se nourrit de substances sucrées uniquement. Et ce vrombissement que vous avez entendu, et justement, c'est très caractéristique de cette espèce, le sphinx à tête de mort, parce que quand il est poursuivi par une chauve-souris ou des oiseaux, il émet ce cri, ce vrombissement pour essayer d'effrayer. Voilà.
Oui, parce que ça fait un bruit de sonar, c'est vrai.
C'est ça.
Mais moi, je n'ai pas vu ni de dard, ni de trompe, ni rien.
Alors, la trompe est repliée sous la tête, hein, donc vous ne pouvez pas la voir.
D'accord.
Elle est très très courte en plus chez le sphinx à tête de mort.
Et pourquoi il est rentré dans ma chambre?
Il est attiré par la lumière.
Ah, parce que vous avez dû lire.
Eh oui, c'est ça, vous les étiez en train. Ou vous aviez du miel peut-être sur les bras, je ne sais pas.
Non, il s'est posé sur mon genou, et donc ça a fait une tierce de soin. C'est vrai qu'il a... Moi, j'ai ressenti beaucoup de douceur de sa part.
C'est excessivement doux.
Parce que j'en avais jamais vu.
Et vous savez pourquoi?
Parce qu'il
a plus d'un centimètre de poils sur le corps.
Ah.
Pour se protéger des piqûres des abeilles, justement, parce qu'il rentre dans les ruches.
Ah, d'accord,
intéressant.
C'est
excessivement doux.
Il y a vraiment une tête de mort
De mort qui est dessinée normalement sur le thorax, qui est cachée par les ailes qui sont un peu noires, hein, qui sont fuselées, un peu longues, mais selon la taille que vous m'avez décrite, effectivement, ça correspond tout à fait à ça.
Voilà, Christiane. Énigme résolue grâce à Gérard Philippi, le sphinx à tête de mort. C'était une belle histoire, cette, voilà, ce que vous avez raconté, Gérard. Bon, on doit s'arrêter là parce qu'il est bientôt 10h. Je vais demander à Timéo, Martine et Joël de nous rappeler dans 15 jours, le jeudi 15 août. Vous serez là, hein, Gérard.
Ouais, je serai là.
Le jeudi de l'Assomption.
Il y aura encore
de l'Assomption, pardon. L'Assomption, n'importe quoi. L'Assomption, c'est au printemps. Donc là, c'est l'Assomption. Marie qui monte au ciel. Révisons notre catéchisme. Donc ce sera le 15 août avec vous, Gérard Philippi, dans les experts à 9h30. Je rappelle que vous êtes à la tête du cabinet d'expertise naturaliste à Aiguille et Cotonia. Et tous les liens sont sur francebleu.fr/Provence. Merci, Gérard.
Merci à toi, Cédric.
À dans 15 jours. À suivre Carole Cooking, la cuisine.
Bonjour,
on cuisine
Cédric.
Quoi, Carole? Bonjour.
On va se donner des idées pour faire des plats végétariens.
Ouais, ouais,
aujourd'hui.
Super, recette végétarienne. Et puis demain, dans les experts sur France Bleu Provence, à 9h30.